France Musique.
Alain Badiou est sans conteste aujourd'hui l'un des philosophes les plus lus, les plus écoutés, les plus traduits. Penseur de l'événement, qu'il soit politique, artistique ou amoureux, c'est encore un homme d'engagement, un auteur de théâtre, mais aussi, on le sait moins, un véritable mélomane, auditeur affûté et même longtemps musicien amateur. Il acceptait de partager cette vie secrète avec nous tout au long de l'été. Alain Badiou, philosophe et mélomane, premier épisode aujourd'hui, le temps des découvertes. Avec plein de mesures en moins et un son d'épouvante, c'était les dernières mesures de l'apprenti sorcier de Paul Dukas, version Léopold Stokowski avec l'orchestre de Philadelphie, pour, bien sûr, la bande originale du film Fantasia de Walt Disney en 1940. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
1940, je compte bien, vous aviez 3 ans, donc je suppose vous n'avez pas vu le film.
Je l'ai vu plus tard, mais il a tout de même marqué dans mon enfance. Vous savez, j'étais dans une famille qui n'était pas une famille de mélomanes. Un symbole est que j'ai toujours été dans une maison sans piano.
Ouais. Ce qui, pour une grande maison bourgeoise, voilà, est presque une faute.
Et donc, ma culture musicale, cette culture était un bien grand mot, a été, au fond, faite de briques et de broc, de choses que j'entendais par-ci, par-là, des cours de musique qu'on nous donnait, tout de même, à l'école, et aussi de ce que je pouvais grappiller au cinéma. Évidemment, Fantasia, le film de Walt Disney, m'a introduit à sa manière, comme beaucoup d'autres gamins, finalement, à la symphonie pastorale, à l'apprenti sorcier, etc. Et ce sont au fond un peu des leitmotifs comme ça qui traînaient dans l'enfance.
Il y avait des disques à la maison ?
Il y avait quelques disques tout de même, oui. Il y avait quelques disques où se mélangeaient les danses de l'époque, des tangos, des choses de ce genre, d'un côté, et puis de l'autre quand même quelques 78 tours classiques, dans un mélange d'ailleurs assez étrange, dont je pense que la régente était ma mère finalement. Ma mère avait en réalité un penchant pour la musique, mais inéduqué, enfin non transformé. On y reviendra sans doute, mais elle avait été extrêmement wagnérienne, d'une certaine manière. Mais dans une sorte d'isolement, c'était pas au sein d'une culture musicale, c'était une espèce de transfert sur la musique wagnérienne. Donc c'est dans ce désordre général que j'ai tenté de me constituer petit à petit comme ayant une relation effective et finalement importante à l'ensemble appelé aujourd'hui musique classique.
Ouais. Et la radio, à la Badiou ?
À la radio, il n'y avait pas de radio non plus chez moi.
Non,
il y a toujours eu dans ma famille un ascétisme sur ce point, une hostilité à la radio, suivie ensuite d'une hostilité à la télévision. Il n'y avait rien de ce genre. Et comme tout de même, j'entendais beaucoup parler de la radio, ne serait-ce que par mes copains, j'ai fini par me bricoler un poste à galène. Oui, avec des écouteurs, et le soir, quasi clandestinement, dans la nuit, j'écoutais ce que je trouvais, c'est-à-dire peu de choses. Mais je me souviens en particulier de la valse de la Belle au bois dormant, que nous avons entendue tout à l'heure, et de choses de ce genre, qui ont elles aussi contribué à cette espèce de bricolage musical de mon enfance.
Ce bricolage musical, comme vous dites, vous l'avez voulu vous-même, ou il était un peu forcé quand même par vos parents derrière, qui vous disaient que c'était une sorte d'idéal peut-être aussi cette musique, non ?
Je pense pas du tout, je pense que c'était vraiment pas une famille de mélomanes. La musique était respectée à distance, si je puis dire, elle faisait partie de la culture honorable, de toute la petite bourgeoisie éduquée, hein. Mais il ne la fréquentait que peu finalement, et en des occasions sur lesquelles on reviendra, plutôt exceptionnelles. Donc moi, je naviguais là-dedans, et je pense que ce qui quand même m'a conduit à quelque chose d'un tout petit peu plus discipliné, ça a été la fréquentation, à partir d'un certain moment, du Théâtre du Capitole.
Voilà. Ça, on va y revenir dans un instant. J'ai dit en ouverture de cette émission, Alain Badiou, que c'était une sorte de vie secrète pour vous, la musique, parce que les lecteurs de vos ouvrages, dont je suis, ont cherché pendant des années quelques traces de la musique. Si, il y en avait dans Logique des mondes, il y a eu un ouvrage sur Wagner il y a 7 ou 8 ans, mais très peu de choses en réalité.
Oui, c'est très frappant pour moi-même, à vrai dire. C'est un paradoxe. D'un côté, dans l'ensemble des secteurs de l'activité artistique, bon, je les suis un peu tous quand même, mais la musique occupe une place considérable. Je l'ai beaucoup à la fois pratiquée, écoutée, je me suis déplacé pour l'entendre, etc. Et de l'autre côté, le commentaire de la musique n'est pas du tout fondamental dans mon œuvre. Et je pense de ce point de vue-là que la musique est restée, en effet, peut-être à cause de ce bricolage enfantin, lui-même déjà quelque peu clandestin, finalement fait quelque peu extérieur à ma famille, je pense que mon rapport à la musique est resté un rapport très très subjectif, très privé, très secret. Et pour me libérer de cette condition, il a fallu beaucoup de facteurs extérieurs. Peut-être aussi suis-je là, comme sur d'autres points, à l'école de celui qui a été mon premier maître philosophique, à savoir Jean-Paul Sartre, dont on sait que lui était pianiste, et pianiste honorable, qu'il écoutait beaucoup la musique. Et là aussi, si on traque l'œuvre de Sartre, on trouve des choses sur la peinture, un livre sur le Tintoret, on trouve des choses sur la littérature, bien sûr, etc., mais sur la musique, presque rien.
Et pourquoi alors ? C'est trop intime, trop personnel, ou c'est difficile de l'approcher ?
Je pense tout de même qu'il y a une raison un peu générale. C'est-à-dire que tout de même, le commentaire musical requiert, me semble-t-il, un minimum de technicité, tout de même. La musique est à la fois l'art le plus sensuel et l'art le plus ésotérique. C'est son paradoxe. Elle est les deux en même temps. Elle agit par un effet quasi corporel quand même, et avec des émotions très fortes. Mais d'un autre côté, l'écriture musicale, c'est quand même une écriture extraordinairement difficile à conquérir, ésotérique, subtile. Je vous assure que parvenir à lire vraiment une partition d'orchestre, c'est quand même pratiquement un exercice professionnel, hein. Et je pense que nous reculons tous un peu devant l'entrée, devant le commentaire musical, avec aussi cette idée du commentaire musical un peu bébête, qui est quand même très répandu. L'adagio m'a ému, l'allegro m'a stimulé, le mouvement moyen m'a calmé. Il y a une espèce d'accrochage, au fond, un peu au hasard des sentiments et des affects à la musique. Ces commentaires qu'on trouve un peu partout, qui traînent un peu partout, quelquefois même sur les disques ou sur les livres. Évidemment, le philosophe que j'étais, que je suis devenu, se sentait obligé de s'en tenir tout de même écarté. Et donc, je n'avais ni l'audace naïve de déverser sur la musique des commentaires psychologiques, finalement, ni la compétence nécessaire pour faire des commentaires réellement techniques. Du coup, je me suis tué, voilà.
Les premières mesures du concerto pour flûte et harpe de Mozart, Lee Laskin, Jean-Pierre Ampal, Jean-François Paillard au milieu des années 60. On est un petit peu là avec cet enregistrement Alain Badiou, un peu tardif par rapport à votre enfance, mais il se trouve que c'est une œuvre que vous avez entendue comme assez tôt, celle-là.
Oui, c'est une œuvre que j'ai entendue bien avant. Hein. Ça, alors, il doit y avoir quelque chose à vérifier dans l'interprétation. Mais c'est un vieux 78 tours, véritablement, que j'ai écouté dans les années 50. Hein. Et c'est évidemment corrélé à la décision que j'ai prise et qui a été quand même assez fondamentale du point de vue de la musique, d'apprendre un instrument. Et cet instrument, en façon un peu naïve, au fond, a été la flûte, parce que le seul instrument avec lequel nous jouions, quand j'étais en sixième et cinquième, c'était le pipeau. Mmh. Donc, il y avait une espèce de flûtisme obligatoire, comme ça, et élémentaire. Et je me suis dit que j'allais quand même, du coup, le transformer en quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux, sans trop savoir ce que ça signifiait. En réalité, j'ai donc, dès la sixième, commencé l'étude de cet instrument, avec celui qui était par ailleurs le flûtiste de l'Orchestre Symphonique de Toulouse et qui était professeur, etc., M. Chaubet, qui était un flûtiste tout à fait remarquable et un pédagogue excellent aussi, et qui a voulu, lui, quand même, que je ne reste pas totalement ignorant, indépendamment de la technique de la flûte. Il m'a quand même fait faire des dictées musicales, et il a commencé à m'apprendre un peu ce que c'était que l'écriture musicale. Il me faisait aussi déchiffrer les choses. Et donc, le bagage technique minimal, c'est avec lui que je l'ai obtenu. Et donc, ça a été non seulement la flûte, mais un peu plus quand même. Mmh. La flûte est aussi une entrée un peu plus consistante dans l'écriture musicale. Alors évidemment, je me suis tout de suite intéressé au répertoire pour la flûte, à la fois parce que petit à petit, je suis parvenu à en jouer quand même quelques fragments, et aussi parce que c'était mon instrument tout de même, voilà. Donc, j'assumais quand même la dignité du flûtiste.
Oui. Est-ce que vous assumiez aussi la discipline qui va avec? Parce qu'on sait que la musique, c'est une question beaucoup de discipline.
Oui, absolument. Et elle était inégale chez moi. Mmh. Il m'arrivait de sécher les cours. C'est un épisode terrible où j'avais séché le cours et où ma mère m'a rencontré dans la rue. Elle a donné un des innombrables épisodes de conflit avec ma mère. Quelquefois, je ne travaillais pas autant qu'il le fallait, etc. En vérité, je n'ai quand même jamais lâché, à proprement parler. C'est-à-dire, et au fur et à mesure, naturellement, que je grandissais, je suis devenu un peu plus sérieux, jusqu'à cet épisode majeur qu'a été mon incorporation à la fanfare de la 3e région aérienne, où j'ai fait mon service militaire comme flûtiste, justement.
Ça, on en parlera dans une autre émission un peu plus tard de cela.
Absolument.
C'est comme curieux de voir la flûte chez un philosophe, parce que c'est un instrument grec par excellence, la flûte, qu'on peut relier évidemment à cette grande tradition-là, à la pensée grecque, au monde grec. Est-ce que c'était aussi corrélé de cette manière-là pour vous?
Au moment où j'ai décidé de faire de la flûte, certainement pas. Le monde grec était pour moi à l'époque très éloigné, très, très abstrait, même absent. J'ai fait la flûte, je vous l'ai dit, parce que, au fond, ça me paraissait l'étage au-dessus par rapport au pipeau, quoi. Mmh. Tout de suite après le pipeau, la flûte, quoi. Et le reste me paraissait tout de même extraordinairement compliqué. Un de mes grands-pères avait joué du violon. Et j'avais vu son violon pendant la guerre, car j'ai habité pendant un an chez mes grands-parents pour des raisons circonstancielles. Et j'avais vu ce violon et... Le violon m'a toujours paru un instrument absolument extrêmement étrange. Je n'ai jamais compris comment on pouvait arriver à jouer du violon, la posture, la position, à la fin des fins, un son miraculeux. J'avais l'intuition que tout ça était très très difficile. Et le piano, au fond, il n'y avait pas de piano chez moi. Je crois que ça a beaucoup joué. Il n'y avait pas. J'étais une maison sans piano. Et donc la flûte s'est faufilée comme ça, tranquillement.
Ouais. Une question de souffle, la flûte, pour quelqu'un qui va devenir professeur et qui va aussi donner des séminaires, qui est aussi une question de temps long et de souffle long.
Ah oui, 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 oui. Et puis c'est un instrument dans lequel la fabrication du son est elle-même tout de même assez étrange. C'est-à-dire qu'il y a quand même les instruments avant dans lesquels le son est direct. On comprend un petit peu comment le son se fabrique. Vous soufflez dans quelque chose, que ce soit une trompette ou même un hautbois. Mais dans la flûte, vous avez la flûte là, juste sous la lèvre. Et donc, le filet sonore produit le son en heurtant le bord de la flûte et pas du tout par une espèce de vibration immédiate. Et au début, on est très surpris quand on commence la flûte et qu'on a l'habitude que du pipeau. On est très surpris parce que l'effort pour produire un son, et enfin pour produire un son pur, est à lui-même une difficulté. Je pense que même au niveau le plus élevé de la virtuosité flûtistique, on voit bien qu'il y a des virtuoses qui arrivent à avoir un son d'une pureté et d'une force exceptionnelle, et d'autres un peu moins. Et quand on est, comme moi, un débutant, et qu'on travaille d'ailleurs au début uniquement avec l'embouchure de la flûte, parce que rien que ça, c'est déjà très difficile, on se dit, oh, on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué, etc. Il y a quand même un certain nombre de mois où il ne faut pas se décourager.
L'adagio du premier concerto pour flûte de Mozart, Köchel 313, était joué par Emmanuel Pahu, le Philharmonique de Berlin, dirigé par Claudio Abbado.
Alain Badiou, philosophe et mélomane, Lionel Esparza, France Musique.
Alain Badiou, vous l'avez joué cet adagio, hein, avec orchestre ou avec piano ?
Non, je l'ai joué dans des circonstances même dramatiques, parce que j'avais pris l'option musicale pour le brevet des collèges à la fin de la troisième, et dans cette épreuve musicale, que je considère rétrospectivement comme très sévère, car on avait quand même une épreuve instrumentale, mais on avait une dictée musicale et un déchiffrage. C'était quand même pas du tout une plaisanterie pour des gamins de 14 ans. Et j'avais choisi l'adagio du concerto de Mozart, dans une version évidemment pour piano et flûte. Et je l'ai joué avec... une certaine intimidation, c'était quand même une des premières prestations publiques que je faisais. J'ai été satisfait parce que, à la fin, d'un ton, à vrai dire, grincheux, l'examinateur a dit, il n'a pas une mauvaise sonorité. C'était déjà ça.
C'est un bon compliment. Alors, il n'y a pas seulement la musique comme on la fait, il y a la musique comme on la voit aussi. On parlera tout à l'heure de l'opéra, enfin de l'opérette qui a été très importante pour vous. Mais il y a eu quelques concerts que vous avez pu voir assez tôt, Alain Badiou, à Toulouse, où il y avait une vie musicale dans les années 40, la fin des années 40, les années 50, qui était quand même assez développée, en particulier les grands solistes internationaux qui passaient là assez régulièrement.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, un orchestre stable qui était l'Orchestre symphonique de Toulouse, qui était composé largement pour part de l'orchestre du Théâtre du Capitole, de l'orchestre de l'opéra, pour d'autre part de musiciens justement venus un peu d'ailleurs. Et assez tôt, il y avait un rythme quand même des concerts auxquels je me suis, dans lequel je me suis inscrit petit à petit, peut-être tous les mois ou tous les deux mois, quelque chose comme ça. Et dans ces concerts venaient en effet des solistes internationaux. C'est comme ça que j'ai pu entendre Yehudi Menuhin, Wilhelm Kempff et quelques autres. Ça n'était pas toujours le cas, mais c'était le cas de temps à autre. Ça conservait quand même une valeur un peu exceptionnelle. Surtout à partir d'un moment, il y a eu un festival de Toulouse qui a été monté, dans lequel mon père, qui était maire de Toulouse, avait aussi un rôle administratif. Et là, on a pu voir, j'ai pu suivre des choses variées, pas seulement orchestrales, mais des quatuors, des chanteurs de mélodie, des choses de cet ordre. Je pense que ça a donné comme une impulsion un peu nouvelle à mon rapport à la musique. Ce festival de Toulouse, quand j'étais en troisième, seconde, première, terminale, enfin dans ces classes-là. Et dans ce cadre-là, en effet, j'ai eu un contact avec quand même la grande musique de l'époque.
Ah ouais. Ce contact, il était, on comprend bien, relativement rare quand même, parce que c'était rare de pouvoir assister, voir de la musique en concert, l'entendre dans ces situations-là. Est-ce que vous étiez affamé de cette musique quand elle arrivait?
Je suis devenu quand même un peu un fan à cette époque. Ouais. Quoi. C'est-à-dire que quand il y avait le grand concert, j'y allais. Quand il y avait un quatuor qui jouait dans le musée des Augustins, j'y allais aussi. Enfin, à partir de ce moment-là, d'un côté, je me consolidais quand même un petit peu sur la prestation flûtistique. J'ai commencé, naturellement, on y reviendra, j'ai commencé à jouer avec une habille pianiste, etc., puis un peu dans des petits orchestres. Et d'un autre côté, je fréquentais au maximum de mes possibilités le répertoire général donné par l'Orchestre du Capitole, en fait.
Wilhelm Kempff, c'est celui qu'on a choisi ici dans le concerto de Robert Schumann. Vous l'avez entendu dans cette œuvre-là?
Je l'ai entendu dans le concerto de Schumann. Et il avait fait un concert tout à fait extraordinaire, car il jouait un concerto de Bach, ensuite il jouait le troisième de Beethoven et il terminait par le concerto de Schumann. C'est-à-dire que tout le programme était concertiste, contrairement aux habitudes. Où d'habitude, on avait quand même, pour commencer, une petite symphonie de Haydn avant d'entrer dans le vif du sujet.
Là, c'était pas le cas. Faut dire, il avait un côté athlétique aussi, Wilhelm Kempff. Hein. Quel souvenir vous en gardez? Vous avez un souvenir justement d'auditeur, un souvenir visuel ou une impression générale?
Oui, une impression générale qui il a pour moi incarné comme ça dans sa façon d'être, sa concentration, son physique, même lui-même. Il me semblait être venu du romantisme allemand directement. Un personnage qui venait du romantisme allemand directement, comme s'il avait été parachuté d'une autre époque, comme ça, et qui venait nous jouer le concerto de Schumann avec une sorte de contemporanéité à Schumann lui-même. C'est l'impression qu'il m'a fait, et en plus, je pense que c'est quand même la première fois, autant que je me souvienne, que j'ai été frappé, bouleversé par une interprétation. On reviendra sur la question des interprétations, qui me paraît de plus en plus tellement importante, en vrai, dans l'effet musical, mais c'est sûr que Kempff est une de mes plus puissantes impressions, et de fait, principalement dans le concerto de Schumann, qui, de cette date, est devenu quand même un de mes concertos préférés. Thank you.
L'intermezzo du concerto de Robert Schumann par Joseph Cripps, le London Symphony Orchestra, et au piano Wilhelm Kempff en 1953, c'est-à-dire à peu près à la période à la Badiou où vous le voyiez en concert à Toulouse.
À peu près, oui, vraiment à peu près.
Et je voyais votre œil s'allumer particulièrement au moment où la phrase des violoncelles là au milieu arrivait tout d'un coup.
Oui, ça ce sont les grands effets orchestraux auxquels je suis aussi sensible. Quand une phrase surgit et que en un certain sens, elle est inattendue. Alors, on a cette impression très frappante en musique de l'inattendu totalement convaincant. C'est-à-dire, après coup, on se dit, oui, mais on sent la nécessité de la chose, mais au moment où elle surgit, en même temps, elle est comme un événement. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup dans la musique.
Vous avez évoqué tout à l'heure, à la Badiou, votre papa, qui était maire de Toulouse pendant quelques années, juste après la guerre, en fait, ce qui lui donnait une sorte de privilège dont vous avez largement profité à l'opéra.
Et je dois avouer cet élément de corruption légère, oui. Si je veux dire. Le maire de Toulouse disposait traditionnellement d'une loge à l'Opéra de Toulouse, d'autant que le Capitole de Toulouse était sous autorité municipale. C'était un opéra municipal. Donc mon père avait affaire constamment au problème de cet opéra. Comme vous le savez, l'opéra, c'est quelque chose d'extrêmement luxueux, extrêmement coûteux. Et les villes suivent péniblement la nécessité d'avoir un opéra pour leur classe dirigeante. Et alors mon maire s'occupait de ça, et lui, je vous l'ai déjà dit, n'était pas particulièrement mélomane, et donc cette loge au Capitole restait un peu vide jusqu'au moment où je l'ai occupée vraiment. Pratiquement tous les dimanches, pendant la saison, avec de nombreux copains d'école, nous étions parfois jusqu'à 7, 8, 9, nous remplissions la loge complètement. Nous étions connus d'ailleurs comme une composante particulière des dimanches à l'opéra. Et nous occupions cette loge et on prenait le répertoire qu'on nous proposait. On n'avait aucune idée a priori particulière concernant l'opéra. Et encore moins concernant l'opérette, parce qu'il faut bien dire que le dimanche après-midi, c'était principalement de l'opérette. C'était l'époque de la vogue de l'opérette. Et l'opérette, c'était tout de même quelque chose d'un peu différent de ce qu'aujourd'hui la comédie musicale de provenance américaine, en réalité fondamentalement, dont je ne dirais pas ici de mal. Mais l'opérette, c'était autre chose, parce que ça se greffait quand même de façon plus particulière sur les degrés les plus inférieurs de l'opéra. C'est-à-dire, il y avait l'opéra, il y avait l'opéra comique, et puis il y avait l'opérette. Mais en un certain sens, ça faisait comme un trio. Ça circulait entre les trois.
En continuité. En fait.
Exactement. Une certaine continuité qu'on reconnaissait dans l'orchestration, dans les timbres. Quelquefois, des communautés de chanteurs, particulièrement entre l'opéra comique et l'opérette. Et donc, j'ai acquis une importante culture d'opérette, d'opérette classique à cette époque-là, depuis les opérettes viennoises jusqu'à Reinaldo Hahn, etc. Et c'était ce qui nous préoccupait le dimanche, avec quelquefois, assez rare, le brusque effet produit par un opéra.
Qui arrive une fois de temps en temps.
Une fois de temps en temps. Et en outre, le public enfantin se raréfiait. C'est-à-dire, j'ai constaté que quand c'était l'opéra, quand même, un certain nombre de mes copains ne suivaient pas. Ils savaient quand même que c'était pas pour eux. Ça, c'était intéressant. Et donc, nous étions moins nombreux à essayer de nous accrocher à cette difficulté de l'opéra. Parce que, malgré tout, le passage de Véronique ou de Ciboulette à la Tosca ou à Parsifal, c'est tout de même pas absolument, oui. C'est une transition tout de même un tout petit peu difficile.
Mais je pense justement, parce que vous l'évoquez, que la Tosca, vous l'avez vue à l'époque, vous a pas vraiment plu sur le moment.
Une chose très étrange, c'était que pour la culture que nous avions de l'opérette, qui est toujours très animée, qui est très où l'intrigue avance, où il y a des effets comiques, où il y a des petits airs dont on se souvient, l'opéra m'a paru, à travers la Tosca, extraordinairement lent, extrêmement cérémonieux, avec des explications chantées extrêmement considérables, et des émotions auxquelles j'étais encore un peu étranger tout de même, des émotions dramatiques, de l'amour déçu, du drame politique, etc. Et tout ça a été un peu à la fois écrasant et aussi un tout petit peu monotone, voilà. Ça, c'est l'effet premier que m'a fait l'opéra, qui devait devenir plus tard quelque chose de si important pour moi.
Ah oui, je sais que les explications chantées dans Wagner, vous voilà. En aurez par la suite, voilà. Et vous aimerez ça vraiment. On va écouter, tiens, ce que vous avez choisi, vous l'avez cité tout à l'heure, Véronique, chantée là par Maddy Mesplé et Michel Danse.
Ah, méchante, vous voulez rire.
N'est-ce pas le meilleur portrait ?
Vous riez quand moi je soupire.
Vous soupirez. C'est très gentil.
Pardonnez-moi, je vous en conjure, prenez pitié de mon tourment.
Mais ce soir, à votre futur, n'en direz-vous pas tout autant.
Ma future.
Et oui, vraiment. Votre futur, ce soir même, elle vous attend. La pauvre créature.
Aura-t-elle vos jolis yeux, le charme exquis de ce corsage, ce teint si blanc, si merveilleux, et la fraîcheur de ce visage?
Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien.
À quitter cet air ironique, croyez-moi, chère Véronique.
Je vous crois, monsieur Florestan.
De l'escarpolette, extrait de Véronique d'André Messager, chanté par Maddy Mesplé, Michel Danse, et c'était Jean-Claude Hartmann qui dirigeait ici l'un des choix d'Alain Badiou pour l'émission que nous lui consacrons sur France Musique tous les dimanches en fin d'après-midi. On vous attend pas a priori dans cette musique, Alain. On a bien compris d'où venait cette culture et tout ça, mais vous êtes un philosophe sérieux normalement. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque on s'accrochait à ça tellement quand on était un jeune homme? C'est le côté divertissement, c'est ça?
Ah oui, je pense que c'était le divertissement. D'ailleurs, c'était des après-midi tout à fait allègres. Nous discutions avec les ouvreuses, nous mangeons force esquimaux à la crème, etc. C'était la musique, était vraiment divertissement. D'ailleurs, les aspects sentimentaux, superficiels et comiques dominaient dans ces affaires. Et nous adorions l'auberge du Cheval Blanc, Véronique, tout ça, et même aussi les les choses un peu plus récentes, mais il y avait rien. C'était dominé par l'opérette fin 19e, début 20e. Hein, vraiment, c'était le répertoire que le public qui était là le dimanche le connaissait par cœur, ce répertoire. Mmh. Il était capable de chanter les chansons, le chanteur, vraiment.
Mmh, c'était l'opéra.
Et nous avec.
Que vous chantez aussi. En fait, c'était l'opéra, on ne se représente plus aujourd'hui en région, parce qu'on ne peut pas dire province à cette époque-là, où le public connaissait énormément les œuvres et les reprenait en même temps.
Tout à fait. Ça s'étendait d'ailleurs à une partie de l'opéra.
Oui.
Quand il s'agissait notamment de l'opéra français, de Faust, de Manon, des Pêcheurs de Perles, de Carmen, l'auditoire était exigeant et connaissait le répertoire, malgré tout, vraiment.
Et puis exigeant, très critique aussi, éventuellement.
Très critique,
ça sifflait
oui.
beaucoup. Vous avez connu ce genre d'épisode et tout?
Ah oui, j'ai connu ce genre d'épisode. Je me souviens en particulier d'une représentation terrible des Pêcheurs de Perles où le ténor a raté plusieurs notes. Ça s'est très mal passé. La salle a émis des protestations vigoureuses et a quasiment demandé qu'on la rembourse.
Enfin, ah oui.
Ah oui. C'était quand même une cérémonie collective. Alors l'opérette bien sûr, mais même les opéras du fond du répertoire, tout était chanté en français de toute façon à l'époque, même Parsifal. Mais le répertoire français alors était particulièrement connu, et en particulier tout ce qui était Gounod, Bizet, tout ça, c'était vraiment connu. Et le public n'était pas un public facile, c'était un public de connaisseurs, comme d'ailleurs Stendhal l'avait déjà remarqué au début du XIXe siècle, quand il était venu au Capitole de Toulouse. Il avait entendu et il avait remarqué, Stendhal, que le public était un public exigeant et connaisseur.
Vous alliez devenir un sartrien convaincu à la Badiou quelques années après tout ça. Hein. Est-ce que le jazz n'aurait pas pu paraître déjà comme une sorte de solution de, entre guillemets, musique de divertissement? Parce que c'est ça qui allait se passer peut-être à cette époque aussi, cette transition-là vers cette autre musique, non?
Oui, c'est ce que je pense, mais d'une certaine manière, on peut penser qu'en réalité, il a toujours existé des musiques de divertissement. Je pense que c'est même, en réalité, il ne faut pas le rejeter, le mépriser, c'est une des fonctions de la musique. Parce que la musique, c'est aussi le bal, c'est aussi la boîte, c'est aussi le flirt, c'est la séduction amoureuse, c'est aussi ça la musique. C'est un élément générique pour la jeunesse dans la recherche de son avenir, y compris sentimental. Je pense qu'on aurait tort de penser que la musique peut se détacher entièrement de cela. Après tout, chez de très grands musiciens classiques, on trouve des mouvements de symphonie qui sont des beduets. Chez d'autres, on trouve des valses honorées comme si elles étaient quand même un noyau musical essentiel. Et c'est une des puissances de la musique, en général, je pense, des musiques, comme on dit aujourd'hui. Enfin, finalement, tout cela est musical. D'exercer sa puissance à des étages extraordinairement différenciés de l'existence humaine. Je pense que cette circulation, qui va naturellement de quelque chose d'élémentaire à quelque chose d'extraordinairement sophistiqué, n'en est pas moins, finalement, une vaste unité, qui est l'unité de la musique en tant qu'elle enveloppe, finalement, la vie sociale dans son ensemble.
mask is only half disguising. I have no trouble recognizing your features, which I'm idolizing. Oh, hear my pleading, do not spite me, and be relenting, come delight me. You are tormenting my heart always. Oh, throw your mask away. Tormenting my heart always. Oh, throw your mask away.
La comparsita par Javier Cugat, première manière pour évoquer, puisqu'on parlait du rôle social de la musique, Alain Badiou, le rôle de rapprochement qu'elle peut avoir. La comparsita, vous me l'avez fortement suggéré quand on a préparé cette émission.
Oui, ben oui, parce que à cette époque, à l'époque du début des Amours, lorsque nous allions dans les boîtes, dans les bals qui étaient organisés, le tango en particulier jouait un rôle tout à fait particulier, parce qu'il y avait des séquences de 6 ou 7 tangos consécutifs. Consécutif voulait dire qu'ils étaient faits, en général, avec la même partenaire, et que c'était quand même le moment du rapprochement le plus serré, quoi, par rapport aux choses comme le Passo Doble ou les autres valses, sans parler même de l'introduction des rythmes américains qui commençaient à se faire dans l'après-guerre. Le moment tango, c'était le moment de la sensualité, voilà, le moment de la déclaration, voilà. Et donc le tango, pour moi, reste lié très profondément à cette émotion sensible qui était celui du flirt, de la déclaration, de la possibilité de quelque chose, etc. Il faut se rappeler que c'était tout de même une époque où la censure sexuelle demeurait tout de même très forte et où le rapprochement entre filles et garçons était lui-même très codé. Et en particulier, ces lieux étaient des lieux codés de ce rapprochement et le tango était le centre de ce rapprochement. Si bien que je garde pour le tango un amour vraiment de jeunesse considérable, parce que il a été lié pour moi à ces espèces de frissons émotifs des premières sensualités.
Ouais. Une musique qui permet en effet le rapprochement entre les êtres à une époque où on danse à deux, ce qui sera bientôt plus le cas.
Eh bien, ça c'est une des choses qui m'a le plus étonné. En vérité, c'est le passage progressif de la danse comme étant constitutive, si je puis dire, du couple, et presque à la fois la construction et la mise en scène du couple. On le voit encore quand on voit des films ou des reportages sur les grandes séances de valse dans les palais bourgeois du 19e siècle. Et le tango, l'humble tango toulousain, jouait le même rôle quand même. Et il s'est produit progressivement que la danse et les nouveaux rythmes font que on danse beaucoup plus seul, finalement. C'est-à-dire, on est beaucoup plus dans une séparation de l'autre. Et comme si, d'une certaine façon, le couple se défaisait plutôt qu'il ne se constitue dans la danse. Pour moi, c'est une mutation extrêmement étrange. Voilà. C'est certainement un symbole, mais je laisse son interprétation aux anthropologues.
La valse, Alain Badiou, c'est par une valse que nous allons conclure cette émission, celle de Maurice Ravel. C'est une valse qui nous a permis d'ouvrir, celle de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, qui nous servira de générique tout au long de cet été, parce que l'impression, en fait, c'est une impression que vous avez vous-même, j'ai cru comprendre, que cette valse était quelque chose, pour cette époque-là, et même pour une partie de votre vie, finalement, comme une sorte de fil directeur très
oui,
discret.
La valse, c'est, si je peux dire, c'est le tango, mais sublimé. C'est le tango, mais moins immédiatement collé d'une certaine façon à sa destination sensuelle, y compris le tango tel qu'il est dansé en Argentine. J'ai fréquenté beaucoup le tango argentin quand je suis allé plus tard en Argentine. C'est vraiment une représentation sexuelle forte. La valse, c'est tout de même quelque chose qui a une longue histoire, quelque chose qui est lié à des flux à la fois bouleversants, mais plus codés, plus cérémonieux, malgré tout. Et c'est un rythme, ce trois temps, qui me frappe, qui me séduit, qui me prend. En plus, j'ai toujours trouvé que la valse, alors, était un opérateur de circulation entre le bas et le haut de la musique tout à fait caractéristique. Alors, il y a des petites valses qu'on danse dans les villages, et puis il y a de très grandes valses qui sont des chefs-d'œuvre de la construction musicale elle-même. Sans compter des épisodes d'opéra entiers qui sont bâtis sur des valses. Je pense par exemple au dernier acte du Chevalier à la Rose. Et voilà. Et donc la valse, elle circule vraiment. Elle circule vraiment comme impulsion musicale du haut en bas de l'univers musical. Et c'est pour ça que je lui suis très attaché.
Thank you.
Les dernières mesures de la valse de Maurice Ravel, dirigée par André Cloytens avec l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française. Merci à Nelly Portal, Philippe Petit et Delphine Baudet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de notre Alain Badiou, philosophe et mélomane. Ce sera l'événement Wagner.
À réécouter sur francemusique.fr.